marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les maires sont groupés par département autour de leur préfet. Et bien entendu, toutes les délégations n'ont pas les mêmes préoccupations.
Nos villages.
...22 000 maires venus de tous les cantons de France sont rassemblés aux Tuileries sous d'immenses tentes pour déjeuner avec le président Loubet.
Inutile de dire que si les fourchettes ne restent pas inactives, les langues vont bon train.
Ah, voyons un peu le chemin, là. Champagne monte de l'eau.
Au cœur de l'exposition universelle de 1900, le président Loubet a donc célébré les noces de la République et du village. Le village, c'était la petite patrie qui s'était emboîtée dans la grande, en même temps que la politique s'inscrivait dans le village. À l'époque, utilisait-on d'ailleurs tant que cela le mot « village », comme le mot « hameau », le mot « lieu-dit » ? Il relevait peut-être d'abord du vocabulaire des édiles. Les habitants disaient plus volontiers qu'ils allaient au bourg ou quand il s'agissait des écarts chez un tel ou chez un tel. Aujourd'hui, les élus jouent avec le nouveau vocabulaire du territoire. L'autre jour, le président de la communauté de communes du Kerbreize, enterrant le grand chanteur Jan van Skemener, l'a qualifié de fils de la CCKB. Pour les gens, il est tout simplement natif de Sainte-Tréfine, Côte d'Armor. Les villages français, ce sont d'abord des noms qu'on n'arrache pas de la mémoire. Ils ont toujours relevé de types très différents, qu'on pense d'un côté à l'acropole provençale, de l'autre aux villages rues dans les paysages de champs ouverts. Les évolutions récentes ont aussi creusé les écarts. Certains villages paraissent déglingués, d'autres grouillent d'initiatives. N'importe, en temps de métropolisation, ils constituent toujours un tissu conjonctif pour la France. 8 millions de Français disent qu'ils vont ou qu'ils souhaitent habiter des villages.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Pierre Rioux, bonjour.
Bonjour.
Nos villages, un livre chez Talendier. Bon, je vais vous faire évoquer votre enfance parce que, quels que soient les changements qu'on connaît dans sa vie, d'intérêt, d'attachement, on reste un enfant. Et vous, un enfant de...
J'espère rester un enfant, oui, de Corrèze, mais matinée de Paris, donc c'est un peu compliqué. Mes parents sont montés à Paris, vaincus par la dépression économique des années 30, après avoir vendu à un prix dérisoire les derniers petits cochons, pas. Et puis ils sont montés à Paris, et moi je suis né là, mais en même temps j'ai passé une bonne part de ma jeunesse à cheval sur les deux.
J'ai lu que vous aviez encore deux maisons et des prés.
Oui, mais... Je ne révélerai pas tout cela aux auditeurs.
Non, puis on ne dira pas où exactement ça se passe en Corrèze. Vous savez que tous les villages de France ont largement contribué à ce qu'on n'a pas appelé longtemps des cahiers de doléances, mais des cahiers citoyens. Et ces cahiers citoyens, en vue de la conclusion du grand débat qui tarde, parce que le président de la République prend plaisir à le prolonger, visiblement, sont rassemblés et numérisés, rassemblés dans les archives départementales de chaque chef-lieu et numérisés par les soins de la Bibliothèque nationale de France.
Ces cahiers sont préparés, tel qu'on peut le voir là-bas. On va enlever toute pollution, c'est-à-dire les potentiels agrafes, les potentiels trombones. On va remettre dans le bon sens l'ensemble des pages si il se trouvait qu'un document puisse être dans le mauvais sens. Et on va constituer les futurs lots de production, un lot de production correspondant à une boîte à archives. Une fois les documents préparés, ils passent dans un scanner feuille à feuille à très haute vitesse. On numérise aujourd'hui à 160 pages par minute. Le scanner nous permet de nous assurer qu'il n'y ait pas de doublons d'images, qu'il n'y ait pas de doublons de pages. Aujourd'hui, la mission de numérisation des cahiers citoyens doit se dérouler sur un mois. Il doit correspondre à environ 16 000 cahiers citoyens. On en a déjà reçu 14 000. Pour pouvoir assurer les 16 000 cahiers citoyens en 4 semaines, nous avons un engagement avec la Bibliothèque nationale de France de numériser 25 000 pages par jour au niveau cahiers citoyens, plus 10 000 pages complémentaires sur les contributions par courrier.
On va commencer, nous, notre étude après la Révolution française. Je ne sais pas si vous avez beaucoup utilisé les cahiers de doléances. Il y a un chapitre de votre livre consacré à ce mur. Ce mur en Auxois, en Bourgogne.
Tout à fait, oui. Et ce livre de Régine Robin, donc, que j'ai beaucoup utilisé, après celui de Laura, d'Emmanuel Leroy Ladurie sur Montaillou, village occitan, marque bien l'étape, n'est-ce pas? Il y a à la fois les guerres, les difficultés, la haine de l'impôt, n'est-ce pas, qui est constitutive de l'ancien régime français, enfin des villageois et des paysans face à l'ancien, pendant l'ancien régime. Les cahiers de doléances, il y a quand même des similitudes dans le soin avec lequel ils ont été rédigés, proclamés dans les paroisses. Puis c'est passé au district. Et là, il y a eu non pas des récapitulations, mais des conservations tout à fait importantes, ce qui fait que c'est resté, ceux de 89 sont restés une source tout à fait importante. Alors, je ne les ai pas tous, bien entendu, tous consultés, mais j'ai lu beaucoup de gens qui l'avaient fait, et j'ai beaucoup utilisé de monographies, n'est-ce pas, pour faire la description de ces 15 villages.
Alors, les monographies.
Significatifs.
Je vous lis et j'apprends que dans l'Aisne, à Outremancourt, il y a une librairie spécialisée en histoire locale où on peut trouver la trace, d'une manière ou d'une autre, de toutes ces monographies.
Non,
un village sur quatre est concerné.
De plusieurs, oui, pratiquement, si on fait tout le compte. Alors, je dis pas que ce vaillant libraire a une monographie sur quatre, parce que ça se compte par milliers et milliers et milliers, puisque il y a quand même deux siècles d'accumulation, n'est-ce pas? Ça a commencé après la Révolution, notamment sous la monarchie de Juillet. Vous avez des escouades complètes, n'est-ce pas? Curé de village, premiers instituteurs, notaires que cela intéresse, toute une série d'élites locales qui se mettent à farfouiller dans les archives et peut-être même pour certains à interroger des gens sur le maniement de l'outil, sur le proverbe significatif, sur la pratique du patois local, etc., etc. Vous avez au milieu du 19e siècle un foisonnement étonnant, n'est-ce pas, d'archivage vivant, enfin de ce passé rural
de chercheurs et de curieux
et si lourd de la France, et ça a continué au 20e siècle, ce qui fait que nous avons surtout ce qui est ce mélange d'art et de tradition populaire, de parler de patois, nous avons d'objets de création littéraire, de recueil des vieilles chansons, etc., et des airs de danse et des pratiques de danse. Nous avons un matériau ethnologique ou ethnographique, comme on veut, magnifique, n'est-ce pas ?
Le matériau romanesque au XIXe siècle, quand il concerne les villages et les paysans, est souvent noir. Un petit peu les couleurs de l'Angélus de Millet. Vous savez, c'est cet homme et cette femme qui s'arrête de travailler pendant que sonne l'Angélus au clocher et qui prie en plein chant. Baudelaire disait que il témoignait d'une manière d'abrutissement sombre et fatal. Tenez, voilà le portrait d'un village maudit au moins depuis 1870.
Un jour que j'étais en voiture avec quelqu'un de la région, que nous passions dans le petit village de Haute-Faille, la personne avec qui j'étais a tendu la main vers un lieu en haut du village et m'a dit « Ah ben tiens, c'est là qu'on a brûlé M. de Monéis. »
En juin de cette année-là, le thermomètre a dépassé 30 degrés à Périgueux. Il faut y ajouter la sécheresse. Certains départements comme la Charente, la Haute-Vienne et la Dordogne n'auront que très peu de blé, de céréales, de fruits, de légumes. Un journal local écrit « Le bétail sous-alimenté crève de faim. L'eau manque partout. C'est un désarroi général. » À ce désastre naturel s'ajoute la guerre contre la Prusse de Bismarck, déclarée le 19 juillet. Le thermomètre monte à 40 degrés.
Et Haute-Faille, en Dordogne, apprend la défaite de Napoléon III. Les campagnes sont souvent attachées à l'empereur. Et quand un oblio apparaît, Monsieur de Monéis, qui vient crier à tort « Vive la République !» Là, il se passe un carnaval funèbre.
La foule en pleine foire s'empare de lui. Le trimballe, le bastonne, le piétine. Dans des scènes de sauvagerie qu'on n'imaginait plus. Et finalement, le bruit a couru. Et je dirais, toutes les autorités détournent le regard. Il devait y avoir un gendarme qui traînait quelque part sur ce champ de foire, monsieur le maire et je ne sais où. Mais les bruits aussitôt commencent à se répandre, puisque ça se termine non même plus par une bastonnade, mais par on le brûle comme on brûle le cochon, n'est-ce pas ? Et la rumeur commence et s'enfle un peu. Il y aurait même eu une scène d'anthropophagie.
Les rumeurs...
avec de la graisse humaine en tartine.
Les rumeurs concernant Hautefaille viennent corroborer une vision souvent négative. Vous parlez de la terre, de Zola, qui fait suite aux paysans de Balzac.
Bien sûr.
Mais dites-vous...
Mais là, c'est de la sauvagerie, je dirais, intrinsèque. Qui,
à la nature humaine.
Tient, non, ou à la nature paysanne, dirait d'autres. C'est pas tellement, je dirais, la recomposition négative par des gens des villes et notamment des écrivains qui viennent, parce que Zola et Balzac, malgré la qualité de la terre ou du curé de village, sont pas des ruraux particulièrement affûtés. Hein. Donc ceux-là, moi, j'avoue que dans le livre, je les apprécie plus modérément, mais par contre, ils restent stupéfiants jusqu'en 1870. Hein. Quelque chose qui est une barbarie qui a déjà beaucoup étonné et intéressé Alain Corbin dans Le village des cannibales. Ne croyons pas que ce monde des villages, ce monde des campagnes ait ignoré la fureur.
Mais vous assistez, vous dites, le village n'est pas enclos. Le village, il est toujours sur une route. Il est toujours au carrefour, ou souvent au carrefour de plusieurs routes.
Ben oui, c'est la meilleure définition, n'est-ce pas ? On la trouve dans le dictionnaire de Littré dans les années 1870, précisément. Le village, c'est ce qui civilise, finalement. Parce que c'est d'abord le seul lieu qui ne soit pas entouré de murailles, alors que la ville médiévale peut être entourée de murailles. Le village est ouvert, mais principalement, dit Littré, occupé par des maisons de paysans. Voilà. Mais c'est le chef-lieu de tout ce qui est hameau ou ferme à l'écart, n'est-ce pas ? C'est le lieu de rassemblement, où on aura plus tard, où il y a le clocher de l'église, où il y a l'église, et le cimetière. Hein ? C'est une certaine façon de vivre avec les morts aussi, hein, le village. Et ensuite, c'est le... On passe de la paroisse à la commune, et on l'a bien vu, avec quelle flamme. 22 000 maires rassemblés dans le jardin des Tuileries, qu'on entendait tout
et
à l'heure.
22 000 maires élus depuis la loi de 1884.
Absolument.
Élus par leur conseil, parce que le village, c'est ce qui civilise, mais c'est aussi ce qui politise.
Mais, vous le disiez, le village a toujours été en contact avec quelque chose d'autre que lui-même. Hein. Il y a un en deçà qui est le terroir, n'est-ce pas ? Le bout de terre qu'on gratte ensemble. Mais il y a toujours de l'échange, il y a toujours de la circulation, il y a toujours de l'ouverture. Quoi qu'on pense, en voyant, je dirais, le village comme dans Astérix. Hein. C'est pas petit bonhomme, il n'y a pas de palissade autour du village, hein. En France comme ailleurs d'ailleurs. Et il y a au contraire du chemin que l'on rend plus caressable, il y a de la grande route poudreuse ou pas poudreuse, n'est-ce pas, qui mène ailleurs, et qui mène où ? Au chef-lieu, à la sous-préfecture, à la ville, de plus en plus importante. L'échange est toujours là, ne serait-ce que par les artisans et les commerçants qui sont à demeure au village.
Et par l'école Mona Ozouf, dans le premier numéro de l'excellente revue Zadig, on peut déjà la qualifier.
Disons bien excellente, voilà.
Explique que le collège catholique fournit de la littérature grave et mélancolique parce qu'il est fermé, et que l'école publique, parce qu'elle est ouverte, avec sa cour et ses platanes, elle produit de la littérature enchantée, avec Colette et Giraudoux.
Oui, puis elle produit aussi au fond de la classe cette espèce d'armoire que l'on peut aller ouvrir, et j'en sais quelque chose personnellement, n'est-ce pas ? Vous aviez des livres à couverture grise, un peu fanée, et là vous trouviez le livre.
Vous évoquiez le banquet des maires, on va y revenir, nous sommes en septembre 1900, au temps de l'exposition universelle, nous sommes sous les arbres des Tuileries.
Et les voilà partis.
Comme un seul homme, les 22 000 maires.
Après absorption des 30 000 bouteilles.
Déferlent derrière la Domo.
L'Élysée est littéralement pris d'assaut. Le président ne peut plus que serrer des mains mécaniquement.
Massés dans les jardins, dans les cours du palais, dans l'avenue Marigny, les maires, toujours groupés autour de leur préfet, attendent pour défiler devant le président.
Et pour passer le temps, ils sortent tout leur répertoire. Bonne journée pour la République.
Belle journée qui, à en croire les chansonniers de l'époque, s'est joyeusement terminée.
On retrouve Almer d'Aubusson chez Émilienne d'Alençon. On retrouve Almer de Laval chez Mademoiselle Jeanne d'Herval. Le maire de la ville de Cognac chez Clémence de Pibrac. Et le maire de Montmédy dans les bras de Yann de Bouger.
Carnet de campagne, Jean Lebrun sur France Inter.
Bon, Philippe Bertrand nous pardonnera cet emprunt, puisque la marche de l'histoire reçoit un auditeur fidèle de ses carnets de campagne, Jean-Pierre Rioux, qui publie chez Talendier Nos Villages. Vous avez noté que ce sont des maires de villes moyennes quand même, hors Montmédy, qui ont droit aux faveurs des grandes horizontales d'après les chansonniers de 1900, les maires ruraux. Quel plaisir se sont-ils réservés ce jour de septembre 1900?
Bah écoutez, j'avoue que les historiens ne sont pas trop penchés sur cet épisode. Ils ont été complètement fascinés par le déjeuner, n'est-ce pas, dans le jardin des Tuileries. Or, il y a eu aussi une garden party assez alimentée aussi et imbibée au besoin, n'est-ce pas, le soir à l'Élysée puis à l'Opéra, n'est-ce pas, où il y avait aussi beaucoup de petits rats, n'est-ce pas, de l'Opéra. Bon.
Mais habillé de tutu tricolore.
Mais voilà, bon. Plus sérieusement, si j'ose dire, ça a été un moment assez extraordinaire de ce que Gambetta appelait les masses de granit électorales, finalement. Hein. La République a conquis les campagnes grâce largement au suffrage universel, bien sûr, qui est aux mains des paysans encore, hein, après 1870, puisque ça n'a basculé dans ce pays que dans les années 1930, hein, en rapport de force démographique et donc électorale. Et donc, il y a l'idée que c'est là qu'on trouve la France vraie. Finalement, que c'est dans les petites patries qu'on trouve forgera les meilleures armes pour célébrer et aimer la grande patrie, et que au fond c'est là que c'est le berceau de tout. Et ça n'a pas disparu tout à fait aujourd'hui, probablement. Regardez, vous avez actuellement sur les réseaux sociaux des cagnottes constituées par des enfants appellent au secours au nom de leurs parents, agriculteurs endettés. Et une dame, un beau jour, envoie ses quelques euros à ses gosses en disant « Sans vous, on n'est rien ».
Sauf que Jean-Pierre Rioux veut consacrer évidemment un bon chapitre aux villages pendant la guerre de 14 et les habitants des villages vont comprendre au retour du conflit que les jours d'avant ne reviendront pas.
Absolument.
Et c'est en Corrèze que vous allez, à la suite de Claude Duneton, de son très beau livre Le Monument, à La Glaigeole. Juste pour savoir où sont vos prés et vos maisons, La Glaigeole, c'est à combien de kilomètres?
Ils sont très au nord de La Glaigeole, n'est-ce pas? Plus de quelques hectomètres, voilà.
Le Monument de Claude Duneton.
Oui, j'ai relu beaucoup et avec quasiment larmes aux yeux, n'est-ce pas, ce livre étonnant de Claude Duneton, n'est-ce pas, sur le monument. Ben, c'est pendant la guerre, c'est 29 morts pour une petite commune, hein, de 400 habitants, hein, donc toutes les familles sont touchées, ou pratiquement. Hein. Le maire met son costume de marié pour aller bredouiller un peu en larmes à l'entrée des fermes et des maisons, la mauvaise nouvelle. Je ne parle pas des mutilés, etc., qui traîneront pendant tout l'entre-deux-guerres à La Glaigeole. Il y a quelque chose là dans le descriptif, parce que Duneton, et je l'ai suivi bien volontiers, Duneton explique bien des choses. Bah, qu'est-ce que c'est que ces paysans là-bas, dans la tranchée? Ça m'a permis de relire le livre admirable sur les poilus de Joseph Delteil, n'est-ce pas? Ils sont restés là-bas. Et on a beaucoup de témoignages de ça. Voilà des gens qui peuvent être au créneau, à la tranchée. Très souvent, qu'est-ce qu'il est ? D'abord, ils braconnent, quand ils peuvent. Il y a du lapin pris au collet qui revient de quelque part. Et puis, le brin d'herbe. Le brin d'herbe qu'on regarde là, à côté du fusil, à côté de la pointe du fusil. Hein, bon, etc., etc. Il y a là, et Delta, il raconte ça très bien, n'est-ce pas ? La lune est toujours la lune des prairies. Il y a un merle dans la gueule des canons. Bon. Alors, Duneton raconte tout ça, et moi j'essaie de suivre aussi du mieux possible de tout cela. Autour de ces 29 morts, vous avez raison de le dire tout à l'heure, quelque chose bascule là, définitivement. Ça ne sera plus jamais comme avant, bien entendu, malgré les efforts de tous. D'autant que ça s'accompagne de mutations évidemment industrielles, des services, etc., et des progrès des villes qui vont progressivement passer au commandement de tout.
Et la déprise démographique qui avait déjà commencé avait pas seulement les agriculteurs, mais aussi tous les ruraux. Oui, mais dans votre livre, il y a une note optimiste. On ne va pas rester sur les périodes de crise, de doute, ni sur la Deuxième Guerre mondiale, ni rappeler que la Terre meurt, parce qu'elle renaît. Grand livre, fruit d'une enquête collective, une puits d'ethnologue est tombé sur Plozévet, à l'extrémité de la Bretagne. Il ne manquait juste qu'un ethnologue pour enquêter sur les ethnologues. Et la tonalité dominante des propos qu'on entendait à Plozévet était extrêmement optimiste. Témoin ce paysan.
À la mairie, on vient consulter le cadastre. Le remembrement des terrains cultivés transforme la commune. Le bourg se développe.
Et vous ne regrettiez rien, contrairement aux anciens par exemple, de ce monde qui s'en allait derrière vous ?
Oh, sûrement pas, on ne regrettait pas de quitter ce monde qui, évidemment, nous avait fait, il faut le reconnaître, d'assez souffrir quand même, parce qu'il faut voir les boulots inutiles qu'on faisait à l'époque. Inutile, avec tous ces talus qu'il fallait nettoyer et tout. Donc, vous voyez, c'était un soulagement pour nous de voir toutes ces choses-là disparaître. Et les machines pouvaient facilement faire leur boulot, après. Donc, on ne regrettait pas, comme certains qui disent, voilà, dans le temps, c'était comme ci, comme cela, ils regrettent toujours le passé. Mais, enfin, comme dit l'autre, je regrette le passé que je n'ai pas connu. Mais nous, justement, ayant été dans la bouillasse, on voulait en sortir le plus rapidement possible.
Et d'un bond vers le futur.
D'un bond vers le moderne et donc le futur. Effectivement, c'est bien dans le temps de ces années-là, avec toutes les désillusions que l'on a connues ensuite à la fin du siècle, quelque part, à partir des années 1980-1990, qui donc on fait entrer ce village, fut-il modernisé, dans une zone de difficultés, d'incertitudes, voire de désespoir, dont nous sortons peut-être un peu aujourd'hui. Voilà.
Enfin, le dernier village que nous allons présenter à la suite de votre livre chez Talandier, Jean-Pierre Rioux, c'est un village un peu déglingué, dont on se demande s'il sert encore à quelque chose. Il est beaucoup plus petit que Plozévet. Il se situe à proximité d'une route nationale et de la ville d'Auxerre, qui offre encore un certain nombre d'emplois. Mais Pascal Diby, un ethnologue seul, qui lui a consacré deux livres à 30 ans de distance, observe que on ne voit plus personne, que les volets restent fermés dans la journée, parce que les gens prennent leur voiture tôt le matin et reviennent tard le soir, et pas seulement pour aller au supermarché, mais aussi bien pour mener les enfants à l'école.
L'école à Chichery, c'est un groupement scolaire de trois communes, et les classes sont réparties sur Chichery, Bassou et Bonnard, et les enfants en tournent.
C'est-à-dire que les enfants d'une classe, ils sont à Chichery, les enfants de l'autre classe, ils sont dans un autre village.
Voilà, et donc c'est comme ça, c'est aussi une question de budget. Et c'est pour éviter que l'école ferme.
La suppression de certaines classes.
Alors moi, non, mais j'ai mis mes enfants à Auxerre. J'ai expliqué pourquoi je ne peux pas rentrer et récupérer mes enfants. Il n'y a pas de cantine le midi. Et quand on finit à 7h du soir, on ne peut pas aller chercher ses enfants à 4h30 à l'école. Mais ils ne connaissent pas plus la ville, puisqu'on on s'arrange. C'est aujourd'hui, on vit un peu à 100 à l'heure et on s'arrange pour une question de temps. Ils sont à l'école en périphérie de la ville, donc ils connaissent le trajet entre la campagne et la périphérie de la ville, mais pas vraiment forcément le cœur de la ville.
Et pas la campagne non plus.
Oui, c'est le sort tous ces gens flottants, et Chichery est un très bon exemple de ce qu'a été, et je maintiens, de ce qui n'est plus tout à fait, une sorte de désespérance de notre siècle, au village, parce que c'est un lieu qui est devenu décoloré, qui est devenu dépaysé, indécis, que sais-je, qui attend quoi, dit Pascal Diby, qui attend quoi, hein? Comment faire pour donner sens à ces vies-là? Or, je pense qu'il y a des assemblages, peut-être en train de se constituer, même s'il faut toujours prendre la voiture marchant au diesel pour faire 200 mètres ou pour conduire les gosses à l'école. Bon, c'est une noria incessante, c'est vrai. Mais enfin, il y a une espèce de monde indécis, c'est vrai. Éclaté, c'est vrai. Où la, je dirais, l'agriculture et les agriculteurs ne représentent plus que 10 à 15% de la population. Mais où vous avez quantité de retraités d'âge bien entendu différent, mais le jeune retraité est devenu un élément moteur dans les villages, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne se contentent pas de cultiver leur jardin honorablement, hein, et de manière plus bio qu'avant. Bon, mais ils hantent les associations, les conseils municipaux, etc. Vous avez aussi des actifs qu'on dit pendulaires. Et ça, c'est très nouveau. Hein. Tous ceux qui, et on en avait un témoignage à l'instant, n'est-ce pas? Tous ceux qui ne sont plus seulement, je dirais, des périurbains, qui ne sont plus seulement des enfants de la ville, des familles de la ville qui viennent chercher le pavillon commode et à prix décent. Des gens qui ont en tête aujourd'hui de devenir, c'est ça, des néo-ruraux, finalement, aussi, ou des rurbains. Hein. Ils acceptent la vie, ils acceptent les contraintes, ils acceptent que l'emploi est là, bien entendu, que l'échange est là, et que la civilisation et les modèles culturels viennent de la ville, c'est entendu, mais... Et il y en a plus de 8 millions, semble-t-il, aujourd'hui en France.
Plus de 8 millions qui disent vouloir aller au village.
On veut bien tout ça, mais on pense que nous vivrons mieux si nous le vivons au village, ou dans une commune plus rurale. Et là, je crois que c'est un signe très, très important. On a de multiples enquêtes et témoignages de tout cela. Le périurbain devient du rurbain, n'est-ce pas ? Et moi, je l'ai dans le livre, je le montre assez bien à propos du village qui est au centre de la France et qu'on connaît bien grâce à Fabrice Lardreau qui a fait un très beau livre, petit livre sur le carrefour invisible, Bruyères-Alichamps, pas, au centre, là, quelque part, entre Bourges et Saint-Amand-Montrond, où il y a une colonne gallo-romaine au milieu qui marque, disait-on, le centre de la France. Bon. Et là, vous voyez tout ça fonctionner. La trace paysanne est effacée. Les agriculteurs, c'est du teuf-teuf en tracteur à la périphérie, ça crée des embouteillages sur la grande route, c'est tout. Bon, finalement. Mais une mobilité humaine incroyable, hein, la bistrotière en chef est une ancienne hôtesse de l'air, vous voyez. Hein. Il y a là des nouveautés, même s'il y a encore des échecs au plan touristique, même si il faut l'auto pour aller faire quelques centaines de mètres.
Mais il y a, au centre.
Même si tout ce que nous avions en tête sur l'espace et sur le temps, au temps du glorieux du village, s'est effrité, mais il y a le bio, il y a l'écolo. Donc l'avenir est peut-être agro-bio.
Le village n'est plus inutile, comme on a pu le penser un instant.
Voilà.
Nos villages, chez Talandier, Jean-Pierre Rioux. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco, avec Clément Berman à la technique, Valérie Estaraï à la réalisation.